Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que chacun d'entre vous vous portez bien. Donc pour ma part, ma famille et moi-même, nous allons bien par la grâce de Dieu. Nous allons très rapidement ouvrir la parole de Dieu et nous replonger dans une histoire, une très belle histoire de l'évangile de Luc. Et je vous encourage à lire avec moi une lecture qui sera quand même conséquente, mais il fallait cela pour se plonger dans le contexte de l'histoire. Donc Luc chapitre 24 à partir du verset 13, et nous lisons ensemble Luc chapitre 24 du verset 13 jusqu'au verset 35. Voilà, il nous faut au moins lire tous ces versets en introduction. Nous lisons ensemble. Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit : « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» Et l'un d'eux, nommé Cléopas, lui dit : « Es-tu le seul qui séjourna à Jérusalem ne sachant pas ce qui est arrivé ces jours-ci ? » ?»« Quoi ? » leur dit-il. Et ils lui répondirent ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit : « Ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ? » Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant : « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Et pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre : « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent les onze et ceux qui étaient avec eux, assemblés et disant : « Le Seigneur est réellement ressuscité. » Et il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Amen. De toute cette histoire que nous venons de lire, j'aimerais que l'on s'arrête sur un seul verset et même sur une seule phrase. Ou plutôt, je dirais, une prière. Une prière qui m'a interpellé tous ces derniers jours. Et cette prière, nous la retrouvons au verset 29. Mais essayons de relire à partir du verset 28. Luc 24, versets 28 et 29. Nous lisons ensemble. « Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant : « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Amen. La prière, vous l'avez compris, c'est juste « Reste avec nous, Seigneur ». Et s'il y avait un titre à donner à ce message, je dirais, eh bien, c'est « Reste avec nous, Seigneur Jésus ». C'est une courte prière, certes, mais ô combien inspirante. Car je crois qu'elle est plus que d'actualité, au regard peut-être des temps critiques que nous sommes en train de vivre. Oui, Je crois que nous avons plusieurs bonnes raisons de dire à Jésus, reste avec nous. Et je voudrais que, tout simplement, que nous partagions ensemble quelques-unes de ces raisons. Mais avant cela, j'aimerais quand même attirer votre attention sur ce que fit Jésus, avant que les deux disciples ne lui demandent avec instance de rester avec eux. Et pour ce faire, il nous faut donc revenir au verset 28. Je l'ai lu, mais il faut que nous puissions l'avoir tout à nouveau devant les yeux. On lit, verset 28, « Lorsqu'ils furent près du village où il allait, Jésus parut vouloir aller plus loin. » Et j'ai voulu, pour que vous compreniez bien ce qui s'est passé à cet instant précis, vous partager d'autres versions. La version, par exemple, Bible français courant, nous exprime ce verset de la manière suivante. « Jésus fit comme s'il voulait poursuivre sa route. » La version Darby dit de son côté, « Et lui, il fit comme s'il allait plus loin. » La version Top dit, « Et lui fit mine d'aller plus loin. » C'est intéressant. En fait, par cette attitude, Jésus a voulu éprouver les deux disciples afin de voir ce que ces derniers feraient. Or, Jésus, qui est omniscient, savait parfaitement ce que les disciples auraient eu comme réaction. Et ce qui m'amène à dire avec vous que finalement, Jésus a eu cette attitude pour que les disciples mettent en évidence, devant nos yeux, à nous qui méditons ce texte en cet instant, le secret qui nous permettra de recevoir toujours plus de lui. Et ce secret, c'est ni plus ni moins la soif de Dieu. Mon frère, ma sœur, toi qui écoutes ce message aujourd'hui, mon frère, ma sœur, as-tu soif de Dieu ? En effet, ce que Dieu veut, c'est que nous puissions avoir soif de lui, au point de le chercher de tout notre cœur, avec passion, avec persévérance. Et je vous interpelle, je nous interpelle, mes amis, si les deux disciples avaient laissé partir Jésus, ils seraient passés à côté de la glorieuse révélation du Christ ressuscité. Mais parce qu'ils avaient soif de Dieu, les deux disciples ont expérimenté ce soir-là, dans leur maison, des choses surnaturelles qui certainement ont marqué et influencé tout le reste de leur vie chrétienne. Je nous interpelle encore aujourd'hui, mes frères et sœurs, combien de fois nous nous sommes contentés de cheminer aux côtés du Seigneur Jésus, alors que finalement, quelque part, ce dernier désirait beaucoup plus pour nous ou attendait davantage de nous. En effet, Jésus désire que nous l'invitions à entrer dans l'intimité de nos vies, c'est-à-dire à avoir avec lui des moments de qualité, des moments de communion, à avoir avec lui des face-à-face, j'ai envie de dire des tête-à-tête de qualité avec lui. Mes frères et sœurs, pourquoi se contenter des grâces et des bénédictions du parvis du tabernacle alors que Jésus nous a ouvert le chemin pour entrer non seulement dans le lieu saint, mais aussi surtout dans le lieu très saint qui est symbole de la présence divine. Mais tout cela se résume à une chose, c'est une question de soif. C'est pour ça que j'ai posé cette question tout à l'heure. As-tu soif, mon frère, ma sœur ? Vous savez, les plus grandes révélations ont été accordées à des personnes qui, quelque part, ont pris le temps de se tenir dans la présence de Dieu. Je pense par exemple à Moïse sur la montagne, à deux reprises, deux fois 40 jours, 48 et 40 nuits, au sommet de cette montagne, à recevoir de Dieu des choses extraordinaires que nous partageons encore aujourd'hui au 21e siècle. Daniel, auprès du fleuve Hiddekel, a reçu des visions divines. Pierre, sur le toit d'une maison, a reçu également ses révélations en son temps. Jean, que dire de Jean, sur l'île de Patmos. Élie, également dans la caverne sur le mont Horeb, et je pourrais continuer la liste. Mais tout cela ne peut se vivre, et j'ai envie de dire se développer, qu'à travers notre soif profonde de Jésus. Et je constate donc avec vous que cette soif, finalement, animait le cœur de ces deux disciples qui faisaient route avec Jésus. Une soif, il faut le dire, qui avait été auparavant activée par les paroles qui sortaient de la bouche de Jésus. Jésus qui est lui-même la parole incarnée, Jésus qui est lui-même la parole qui s'est faite chair. Ainsi, Lorsque Jésus leur expliqua dans les Écritures tout ce qui le concernait, comme on l'a lu tout à l'heure, eh bien, quelque part, en retour, la soif commença à s'activer dans le cœur des disciples. En leur parlant, Jésus alluma un feu d'espérance et de foi dans leur cœur. C'est d'ailleurs au verset 43 que les disciples eux-mêmes confirment ce que je suis en train de vous dire. Luc 24, verset, non, plutôt 32. Ouais, Luc 24, verset 32. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Mes frères et sœurs, lorsque nous prenons le temps de méditer la parole de Dieu, alors des choses merveilleuses se passent dans notre être. Lorsque nous prenons le temps, peut-être même de s'isoler dans notre chambre ou dans notre bureau, peu importe, un endroit calme, tranquille, peut-être sans intermédiaire, sans internet ou bien tous les réseaux sociaux, mais juste seul à seul avec Dieu, cœur à cœur avec Dieu, et laisser cette parole vivante venir nous interpeller. Cette parole a un pouvoir vivifiant. Elle restaure l'âme, elle fortifie notre foi. La Bible, la parole de Dieu, nous met directement en contact avec Jésus. En fait, finalement, la vraie méditation de la parole de Dieu va, quelque part, à coup sûr, susciter en nous la soif de Jésus. Et c'est donc cette même soif qui a poussé ces deux disciples, dont l'un s'appelait Cléopas, on l'a lu dans le texte, ces deux disciples à exprimer avec insistance la fameuse prière qui maintenant va attirer toute notre attention. Luc 24, verset 29, on le relit. Alors les deux disciples le pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et alors Jésus entra pour rester avec eux. Je crois que Jésus ne refusera jamais lorsque nous allons l'inviter dans notre demeure, dans nos maisons. Comme je l'ai dit précédemment, nous avons nous aussi plusieurs bonnes raisons de dire à Jésus, reste avec nous. Et je voudrais maintenant vous partager quelques-unes de ces raisons. Bien sûr, la liste ne sera pas exhaustive. J'ai juste retenu trois raisons, trois bonnes raisons de dire à notre tour, en ce 21e siècle, Seigneur, reste avec nous. La première de ces raisons se trouve dans le verset que nous venons de lire. En effet, il nous est dit, reste avec nous. Les disciples ont dit à Jésus, reste avec nous, car le soir approche et le jour est sur son déclin. Et les deux disciples avaient bien sûr remarqué qu'il se faisait tard. La nuit était presque tombée et ils ont justement utilisé cet argument pour supplier Jésus de rester avec eux. Ça leur arrangeait quelque part, c'est que cette nuit puisse tomber. Afin bien de dire, Seigneur, tu n'iras pas plus loin, en plus les routes sont incertaines. Il est plus sage pour toi que tu restes avec nous. Et quelque part, il ne lui a pas donné le choix de pouvoir rester avec eux. Et Jésus, de toute façon, voulait rester avec eux. Mais pour nous, chrétiens du 21e siècle, à nous qui vivons les derniers temps, cette prière, j'ai envie de dire, a pour nous une portée spirituelle, une connotation spirituelle. En effet, nous prions le Seigneur Jésus de rester à nos côtés. Pourquoi, me direz-vous? Ah bien parce que les ténèbres s'épaississent sur la terre. La nuit spirituelle tombe littéralement sur ce monde. Et nous le voyons bien autour de nous quand on a les yeux ouverts. Les ténèbres spirituelles s'amoncellent sur la terre. Le bien est appelé mal et le mal est appelé bien. Jésus a dit une réalité finalement qui se vérifie aujourd'hui bien dans le monde. L'iniquité n'a de cesse de s'accroître, tandis que l'amour du plus grand nombre se refroidit. C'est exactement ce que nous sommes en train de vivre. Et puis parallèlement à cela, nous découvrons les signes précurseurs du retour de Jésus sont en train de s'accomplir devant nos yeux. Jésus a donné quelques pistes à ses disciples dans Matthieu chapitre 24. On ne relira pas tout ce texte, mais je vous encourage à pouvoir le lire si vous voulez, chez vous. Jésus dans Matthieu 24 nous parle par exemple des famines. Je ne sais pas si vous le savez, actuellement, toute l'Afrique de l'Ouest est en train de vivre un véritable désastre. Désastre qui est dû à une invasion, et je précise, sans précédent, de criquets pèlerins qui détruisent sur leur passage toute forme de végétation. Invasion de criquets qui aura pour conséquence de plonger plusieurs, écoutez-moi bien, plusieurs dizaines de millions de personnes dans la famine. Mais nos yeux sont tellement rivés sur ce coronavirus, eh bien qu'on en oublie tout le reste. Je ne parle même pas des tremblements de terre qui, selon les sismologues, ont augmenté en nombre et en fréquence durant ces dernières décennies. Pour la petite histoire, il y a dans le monde entier, par an, entre 500 000 et 1 million de tremblements de terre. Alors à différentes intensités, bien sûr. La Bible a aussi parlé, eh bien, ça et là, de guerre, d'apostasie, de moquerie, de faux prophètes, se présentant même, eh bien, comme le Seigneur Jésus. Du retour également des Juifs d'Israël. Et nous le voyons. La propagation de l'Évangile dans le monde. Et nous savons qu'aujourd'hui, eh bien, le livre encore qui reste le best-seller et le plus vendu dans le monde, c'est la Bible. Il faut que la bonne nouvelle soit annoncée dans le monde entier. Après quoi viendra la fin, dit Jésus. Pratiquement tous les signes précurseurs du retour du Seigneur sont accomplis devant nos yeux. Et mes frères et sœurs, alors que les ténèbres continuent à s'amonceler sur le monde entier, le temps de l'Église sur terre touche à sa fin, car Jésus va bientôt venir la chercher. Et la Bible dit que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. On en a parlé dimanche précédent. Il y a ce texte que j'aimerais replacer devant nos yeux encore ce matin. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 1 à 9. Nous lisons le conseil, l'exhortation de l'apôtre Paul qui s'adressait à l'époque aux chrétiens qui se trouvaient dans la ville de Thessalonique, mais qui s'adresse aussi à nous parce que la Bible est intemporelle. Il nous est dit, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. Ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, ayant pour casque l'espérance du salut. Verset 9. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. C'est à cause de tout cela, tout ce que nous venons même d'énumérer au travers de ce verset, tout ce que j'ai dit précédemment, c'est à cause de tout cela que nous avons besoin de dire au Seigneur, « Seigneur, reste avec nous. Reste avec moi. Reste avec ma famille. Reste avec mes frères et mes sœurs. Reste avec nous, Seigneur, pour nous aider à rester sobres et éveillés. Reste avec nous, car nous désirons être prêts pour ton prochain retour. » Amen. Voilà donc une première raison pour nous de dire au Seigneur Jésus, « Reste avec nous. » Il y en a une deuxième que je voudrais placer devant vos yeux. Reste avec nous, Seigneur, car nos ennemis sont nombreux. Vous savez, lorsqu'on parle d'ennemis, forcément, eh bien, on pense au diable et ses démons, et on peut le comprendre. La Bible dit clairement dans Éphésiens, chapitre 6 et le verset 12, la vérité suivante, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais ces puissances ténébreuses, nous les terrassons par l'autorité que nous possédons dans la personne et le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Jésus, vous savez, à la croix, a définitivement confirmé devant tous la défaite de Satan. Il y a un texte qui est ô combien précieux pour nous, il se trouve dans Colossiens chapitre 2 et le verset 15. Je vous laisse le temps de le lire, Colossiens chapitre 2 et le verset 15. Colossiens 2,15, il a dépouillé les dominations, en parlant de Jésus, et les autorités. et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Vous savez, par l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix, le Seigneur Jésus a mis KO l'ennemi et toute la puissance, tout le royaume des ténèbres. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Et quelque part, Jésus nous a associés à son triomphe sur la puissance des ténèbres. Et Jésus-Christ nous invite par la foi à vaincre le diable et ses anges. Car tant que Jésus est à nos côtés, tant que Jésus demeure au dedans de nous, rien ne pourra, frères et sœurs, nous nuire. D'ailleurs, le prophète Ésaïe, en son temps, l'a bien compris, car lorsqu'il s'est adressé aux ennemis du peuple d'Israël, il a déclaré les paroles suivantes que je veux aussi placer devant vos yeux. Ésaïe, chapitre 8 et le verset 10. Ésaïe s'adresse aux ennemis du peuple d'Israël et dit « Formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet. Pourquoi ? Car Dieu est avec nous. » Mon frère, ma sœur, rien ne peut te nuire. Et je vous renvoie au psaume 91 qui nous rappelle que nous sommes protégés. Tant que nous avons choisi comme refuge le Seigneur, rien ne peut nous nuire. L'ennemi peut envoyer des flèches. Il peut même nous faire trébucher parce que le Seigneur l'aura permis, mais jamais ne nous terrassera. La Bible nous dit, Jésus parle et dit, « Nul ne nous ravira de la main de notre Seigneur Jésus-Christ. » Tu peux lever la tête. Et tu n'as à craindre personne, parce que Christ est ta lumière, parce qu'il marche devant toi, parce qu'il reste à tes côtés, parce qu'il demeure dans ton cœur. Amen. Mais dans un sens plus large du terme, notre ennemi, c'est aussi tout ce qui peut se dresser contre nous dans notre marche avec Dieu. Et à cet effet, j'ai envie de dire que la liste de nos ennemis devient cette fois-ci beaucoup plus longue. En effet, les ennemis du chrétien, comme de l'homme en général, c'est peut-être par exemple les craintes que nous pouvons avoir, les craintes ou les phobies. L'ennemi qui peut peut-être se dresser devant toi, ça peut être l'angoisse. Tu es angoissé. Tu n'es pas tranquille dans cette période de coronavirus, de cette pandémie. Ça peut être aussi le doute. Mais Seigneur, tu es là ou tu n'es pas là ? Tu es avec moi ou tu n'es pas avec moi ? Ça peut être aussi de l'incrédulité. Ça peut être la maladie. Voilà, je suis atteint de ce virus. Qu'est-ce qui va m'arriver ? Je vais mourir, etc. N'aie crainte. Vous savez, je l'ai déjà dit, ce qui est important, ce n'est pas tant de savoir si je vais être contaminé ou pas. C'est plutôt de savoir quelle réaction j'aurai lorsque, par exemple, le Seigneur permettrait que je puisse expérimenter cette maladie. Il faut juste se rappeler que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La liste, comme je l'ai dit, est longue de tous nos ennemis. Ça peut être aussi, pour d'autres, les addictions, des vices qui sont là et qui ont du mal à être extirpés des cœurs, des vies, des corps. Ça peut être aussi la haine, voilà ton ennemi, la jalousie, la timidité, le manque de confiance en soi qui te donne à te recroqueviller et tu ne rentres pas pleinement dans les plans, dans les projets que Dieu a pour toi. Parce que forcément, les projets de Dieu sont toujours plus grands que toi. Et seront toujours là à pouvoir t'impressionner et te faire ressentir ta petitesse afin que tu sois toujours dépendant de ton Dieu. Ton ennemi, ça peut être la solitude. Ce n'est pas une solitude qui est désirée, c'est une solitude que tu subis, surtout dans ce temps de confinement. Voilà le nom de ton ennemi. Ça peut être aussi tes complexes. Ça peut être le rejet, ça peut être le passé douloureux qui quelque part, ne veut pas se guérir. Notre ancienne nature, avec toutes ses passions et ses convoitises, peuvent être également notre ennemi. Et je préfère rajouter etc., etc., parce qu'on pourrait continuer comme cela à énumérer d'autres ennemis. Voici donc quelques exemples d'ennemis qui nous combattent depuis l'intérieur de notre être. Et plusieurs de ces ennemis ont su, il faut l'avouer, bien souvent nous paralyser dans notre vie chrétienne, voire même nous décourager. Et tu es peut-être en cet instant découragé. Découragé de te battre sans succès contre ses ennemis. Tu es même à bout de force, j'ai envie de dire, à bout de souffle. Eh bien, c'est pour toi le moment de crier à Jésus, « Seigneur, reste avec moi, car mes ennemis sont nombreux. Seigneur, viens à mon secours. » Un peu comme l'a dit en son temps David. On lit un de ses psaumes merveilleux, psaume 143, verset 9. « Délivre-moi de mes ennemis, va-t-il dire, ô Éternel. Auprès de toi, je cherche un refuge. Trouve en Dieu un refuge. » Dans ce temps de confinement, Dieu va te permettre de vivre des choses extraordinaires et pourquoi pas des délivrances. Il est l'Éternel qui nous délivre de toutes nos frayeurs, de toutes nos craintes. Oui, le Seigneur viendra à ton secours. Il te donnera la victoire sur tous tes ennemis. Il y a ce texte aussi que j'aime beaucoup, psaume chapitre 44 et le verset 6. Psaume chapitre 44 et le verset 6. « Avec toi, nous renversons nos ennemis. » Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Puisses-tu le dire avec foi, mon frère, ma sœur, et prendre cette résolution de pouvoir, alléluia, invoquer le nom du Seigneur. Je prie Dieu pour que, durant ce temps de confinement, plusieurs de tes ennemis soient vaincus, soient terrassés sous tes pieds, dans le nom de Jésus. Pour ce faire, tiens-toi devant Dieu, peut-être même dans le jeûne et dans la prière. Et alors, attends-toi avec foi à la victoire, parce qu'elle est certaine. Amen. Il y a encore une troisième et dernière raison que je voudrais placer devant nos yeux. Autre raison de dire à Jésus, reste avec nous. Oui, reste avec nous, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Plus que jamais, frères et sœurs, les gens qui nous entourent ont besoin d'espoir. À plus forte raison, dans ces temps d'épreuve qui plongent beaucoup de gens dans l'angoisse et dans l'inquiétude. Et l'Église en général, et le chrétien en particulier, ont un rôle important à jouer dans cette affaire. Nous sommes appelés à révéler la personne de Jésus à la face de ce monde enténébré. Nous sommes appelés à annoncer les glorieuses, les merveilleuses et les puissantes vertus de celui qui nous a aimés, de celui qui nous a sauvés, de celui qui nous a également glorifiés avec lui. Je parle à nouveau de la personne de Jésus-Christ. Mais devant ce si grand défi, nous sommes conscients que sans la présence du Seigneur à nos côtés, nous ne pourrons rien faire d'efficace, rien faire de bon, qu'il soit agréé par Dieu. Jésus lui-même l'a dit dans Jean chapitre 15 et le verset 5. Jésus a dit, « Je suis le cep et vous, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et c'est pour cela que quelque part, nous avons tous besoin d'être remplis tout à nouveau de l'Esprit de Christ, du Saint-Esprit. Et c'est pour cela qu'en son temps, Jésus, eh bien à son tour, a demandé aux disciples de pouvoir rester, de ne pas commencer à courir à droite à gauche, mais rester à Jérusalem. Et de là, eh bien de pouvoir recevoir ce qu'était la promesse du Seigneur Jésus-Christ. Il dit dans Actes chapitre 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et alors vous serez mes témoins. » D'abord à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et même jusqu'aux extrémités de la terre. Mes amis, quand le feu de l'Esprit s'allume en nous, quand nous sommes baptisés de ce feu d'en haut, alléluia, nous sommes pleins d'ardeur pour parler de Jésus. Et je crois quelque part qu'au sortir de ce confinement, si le Seigneur n'est pas encore revenu, nous devrons plus que jamais témoigner de Jésus autour de nous et nous devons le faire avec assurance, avec conviction. Je me rappelle bien de ce passage où Jésus a dit à ses disciples, les a prévenus, Jean chapitre 9 et le verset 4, je vous laisse le temps de le chercher. Je l'ai trouvé pour vous dans la version Parole vivante et nous lisons ensemble Jean chapitre 9 verset 4. Il nous faut accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit s'approche où plus personne ne pourra travailler. Et on le voit bien. Vous avez vu comment un virus si minuscule, invisible, a pu nous empêcher de poursuivre notre travail d'évangélisation. Nous avions notre place dans les stands bibliques, notre place au travers des sondages de rue, les réunions plénières d'évangélisation. On avait aussi des projets de pouvoir impliquer la ville, eh bien, au contact de l'évangile. Mais tout ça a été comme paralysé à cause des ténèbres de ce virus, mais par la grâce de Dieu, au sortir de cette épreuve, nous reprendrons nos efforts d'évangélisation et avec un zèle, conscient que le Seigneur est à la porte, plus que jamais nous ouvrirons nos bouches et avec assurance, avec conviction, nous parlerons de celui qui a transformé, qui a changé nos vies. Et pour cela, il nous faut rechercher à être remplis du Saint-Esprit. Vous qui écoutez ce message et qui n'êtes pas encore baptisés du Saint-Esprit, je vous le dis de la part du Seigneur, recherchez à l'être. Profitez de ce temps de confinement et demandez avec insistance, avec persévérance au Seigneur de vous baptiser tout à nouveau du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, nous dit la parole de Dieu, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et peut-être vous qui avez déjà expérimenté le baptême du Saint-Esprit, demandez tout à nouveau à être renouvelé de l'intérieur, régénéré tout à nouveau dans la puissance du Saint-Esprit. Car la Bible dit, laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. Ce n'est pas l'expérience d'un jour, mais c'est la grâce qui est à notre disposition chaque jour afin d'être renouvelé, afin d'être actif pour lui, parce que nous pouvons même continuer à évangéliser même dans ce contexte de confinement, même par un coup de fil, même par une parole d'encouragement, on est capable de continuer l'œuvre d'évangélisation à laquelle nous avons été appelés les uns et les autres. Que Dieu, frères et sœurs, nous aide à comprendre tout ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour vous aujourd'hui. Que dire en conclusion? Je termine juste en rappelant ce que nous avons partagé. Oui, nous avons besoin de pouvoir nous exprimer au travers de cette prière qu'a exprimée en son temps ces deux disciples qui partaient sur le chemin d'Emmaüs. Reste avec nous. Reste avec nous, Seigneur. Reste avec nous car les ténèbres s'épaississent sur la terre et le jour de ton retour approche. Alors Seigneur, fais-nous la grâce d'être prêts. Reste également avec nous Seigneur car certes nos ennemis sont nombreux, mais avec toi nous les renversons et les terrassons en ton nom. Et enfin, reste avec nous car sans l'assistance de ton Esprit Saint, nous ne pourrons pas être les témoins que tu veux que nous soyons dans ce monde. Frères et sœurs, que Dieu nous aide à comprendre ces choses et surtout nous aide à les mettre en pratique. Je vais juste prier avec vous. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ce temps de confinement. Seigneur, nous le vivons bien parce qu'au final, tout ce qui, mon Dieu, qui vient de toi, Seigneur, nous l'acceptons. Seigneur, nous savons que même finalement, toute chose concourt au bien, ceux qui aiment Dieu. Et si cette pandémie vient toucher toute la terre, c'est parce que tu l'as permis. Le mal ne peut pas venir de toi. Mais Seigneur, tu es le Dieu souverain et tu règnes sous la terre et c'est toi qui as permis ces choses. Et dans ce temps de confinement, Seigneur, tu invites tous tes enfants à pouvoir prendre ce temps de qualité avec toi, te rechercher, avoir cette faim, cette soif de ta personne comme l'ont eu en leur temps ces deux disciples. Seigneur, tu veux nous parler, tu veux nous révéler de nouvelles choses, des choses grandes. Seigneur, Père, tu veux pleinement nous faire entrer dans ton plan. Tu veux aussi en même temps nous préparer, nous sanctifier, nous épurer. Seigneur, tu l'as dit toi-même, va, entre dans ta chambre. Et là, dans le lieu secret, parle à ton Père qui te voit, qui t'entend. Et Seigneur, je te prie dans ta grâce de nous aider à pouvoir nous discipliner, à avoir chaque jour ce temps, alléluia, de tête à tête, de communion avec toi. Et que Seigneur, là, nous puissions exprimer cette prière. Oui, reste avec, plus que jamais, reste avec nous, Seigneur. Oh, que Seigneur, nous-mêmes, nous ne soyons pas éloignés de toi, que nous puissions demeurer en toi et que toi, tu puisses demeurer en nous. Je te prie en cet instant de fortifier mon frère, ma sœur, qui est découragé, mon frère, ma sœur, qui est en lutte contre un ennemi, qui a besoin de ta grâce. Viens lui donner une pleine délivrance sur tous ses ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Seigneur, viens nous encourager les uns les autres. Seigneur, le meilleur est à venir. Seigneur, nos yeux sont constamment rivés, tournés vers toi. Seigneur, tu nous redonnes de l'assurance. J'ai de la joie parce que mon Seigneur est vivant. J'ai de la joie parce que je suis sauvé. J'ai de la joie parce que, alléluia, tu viendras bientôt nous prendre. Tu viendras sur les nuées et nous serons là à ta rencontre. Seigneur, donne-nous du zèle. Donne-nous du zèle, alléluia. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Tu nous gardes de tout mal. Tu nous protèges. Seigneur, nous dormons avec toi. Nous nous levons avec toi. Nous vivons pour toi. Seigneur, gloire, honneur et puissance à toi. Sois béni dans le nom précieux, alléluia, de Jésus. Seigneur, gloire à toi. Amen. Amen.